Bonjour à tous, 14e numéro dans Spectateur déjà, et cette semaine je vous propose une émission spéciale, opéra, à l'occasion du Messie d'Handel qui est joué encore pour quelques jours jusqu'au 14 décembre. Alors autour de la table, mes chroniqueurs qui ont vu pour vous cet oratorio créé en 1742, Irène d'abord, bonjour.
Bonjour.
Florent ensuite, salut Florent.
Salut.
Et enfin, un petit nouveau qui sera notre expert S-Opéra pour cette émission. Il a la lourde tâche de remplacer Jocelyn à ce poste, qu'on embrasse d'ailleurs. Salut Maxime.
Salut.
Alors, ils étaient dans la salle. Ils vous diront ce qu'ils ont pensé du spectacle. Mais avant cela, je vous emmène dans les coulisses de l'opéra, là où tout se joue, pour rencontrer le chef d'orchestre de l'ombre, la bonne fée doublée d'un MacGyver des spectacles réussis, celui sans qui aucune représentation ne serait possible, Patrick Azopardi, qui est un des deux régisseurs de scène de l'Opéra de Lyon et qui officie donc pour le Messie. Alors il est évidemment bien placé pour nous parler d'un spectacle, lui qui collabore auprès du metteur en scène et du chef d'orchestre, c'est-à-dire pour le Messie respectivement Debra Warner et puis Lawrence Cummings. Il collabore tout au long du projet et donc Patrick Azopardi va nous présenter ce magnifique oratorio de Handel, oratorio en trois parties. Mais surtout, il nous parle de son métier de l'ombre. Il va nous faire découvrir toute la mécanique secrète de la réalisation et de l'exécution d'un spectacle à l'opéra. C'est une interview passionnante où il nous livre de nombreuses anecdotes et vous verrez qu'il se passe de drôles de choses lors d'un spectacle, de drôles de choses, alors que vous êtes bien assis dans la salle et que vous ne vous rendez absolument compte de rien la plupart du temps parce que le régisseur de scène et ses techniciens sont là qui veillent avec une devise « The show must go on ». Alors le temps d'un jingle, un petit peu particulier, vous verrez, le temps du célèbre « Alléluia » du Messie d'Handel ou au moins un extrait, qui assure la transition entre la deuxième et la troisième partie de l'oratorio. Et nous nous retrouvons à l'opéra, dans les coulisses. Fermez les yeux et écoutez. Alors je vous emmène maintenant à l'Opéra de Lyon, où jusqu'au 14 décembre, vous pourrez découvrir le Messie d'Handel, créé en 1742 sur un livret de l'anglais Charles Gilson. Alors pour vous parler de ce spectacle, coproduit par The English National Opera et mis en scène par Debra Warner, je reçois Patrick Azopardi, régisseur de scène du spectacle. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, dans son essai « L'opéra ou le cri de l'ange » publié en 2001, Michel Poisat considérait le Messie d'Handel comme le chef-d'œuvre du genre qu'est l'oratorio.
Oui.
On a donc ici affaire à un genre très particulier qui est différent de la cantate ou de l'opéra. C'est donc l'oratorio et avec le Messie, on a la fine fleur.
Absolument.
De ce genre. Et Deborah Warner, la metteuse en scène, elle entend bien respecter ce genre puisqu'elle déclarait « Je ne veux pas transposer cet oratorio en opéra, je préfère bâtir un contexte où la métaphore prend son envol. » Alors, pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelle est la différence entre l'oratorio et puis l'opéra ?
Un oratorio n'est pas du tout fait pour être mis en scène, il est fait pour être chanté dans des églises, des cathédrales. C'est un acte religieux plus qu'un acte musical où on raconte une histoire avec des décors, des costumes, etc. Il n'y a pas, c'est pas un drame, c'est pas... une histoire comique ou un vaudeville, etc. On ne raconte pas ce genre d'histoire, on est dans le divin, on est dans le christique, et c'est un acte sacré.
L'âge d'or de l'oratorio, d'ailleurs, c'est le 18e siècle. Le
18e siècle, oui.
C'est la passion selon saint Matthieu de Bach,
oui.
C'est le Messie d'Handel, c'est aussi la création de Heine,
Heine,
ça c'est les
oui.
trois grands noms, et on voit dans les titres, on est dans le christique, dans le religieux dont
Absolument,
vous nous parlez.
Oui, et dans le sacré, dans le sacral, et d'ailleurs, Debra tient beaucoup et a beaucoup parlé de sacré, de moments sacrés. Il y a le moment de la crucifixion où en effet, on est dans le sacré. Mmh. Les objets ne sont touchés que par certaines personnes, et c'est l'enfant Jésus qui est représenté par un enfant de la maîtrise en alternance avec un enfant hip-hopper sur scène, qui peut désacraliser en tant qu'enfant Jésus les objets de la crucifixion. Et elle utilise beaucoup la symbolique à ce niveau-là, et c'est très très beau justement.
Et d'ailleurs, l'histoire du Messie, pour le faire rapidement, c'est l'histoire de Dieu,
de
tout
Dieu,
simplement.
Oui, qui naît dans un contexte là magique, on pourra dire. Ouais. On retrouve ça chez Déborah, où elle dit absolument que pour elle, le contexte des gens qui sont sur la scène n'est pas, on ne met pas un projecteur sur ça, c'est Marie, on joue le personnage de Marie, de l'enfant Jésus, etc. Ce sont des monsieur, madame, tout le monde qui, par la magie de ce qui se passe et ce qui est chanté, vont se trouver être la soprano Marie, peut-être, et l'enfant Jésus, un enfant de la maîtrise, et qui vont surgir au milieu d'une foule de monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas de soulignage, de surlignage, si on peut dire, ni dans le costume, ni dans la façon d'agir. C'est après, effectivement, ils sortent du lot. C'est parce qu'ils chantent la partie ou parce qu'ils sont effectivement des solistes formidables.
Ils sortent du lot et le Messie sort de l'église aussi.
Absolument.
On l'entend bien.
Oui, 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 oui.
C'est pas juste un monument
religieux.
Non,
non,
c'est
absolument pas,
que
pas au contraire.
C'est aussi, on pourrait dire, une sacrée musique.
C'est une sacrée musique, oui. Et c'était très difficile pour les choristes d'ailleurs qui sont anglophones mais qui ne sont pas anglais et donc pas à même de connaître par cœur ce genre de partition. La répétitivité des mots et des phrases à redire, mais au cinquième, sixième fois autrement avec une autre note, etc., leur a paru compliqué à apprendre.
C'est parce que dans l'oratorio, on passe des airs au récitatif de
Tout
façon
à fait.
Très soutenue.
Oui,
c'est
oui.
Ça aussi.
Et au cœur.
Voilà, et
aux parties de cœur qui sont magnifiques. Oui.
Et justement, il y a des airs qui frappent dans le Messie, on les connaît tous. Par exemple, l'Alléluia qui fait la transition entre la deuxième et la troisième partie. Ça fait du Messie une musique qu'on retient.
Oui, 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 tout à fait. L'Alléluia, le Valet, le Comfort Vie, il y a chaque partie du ténor et la basse qui fiche un peu la zone dans tout le contexte en train de tirer son alarme et de pousser tout le monde, de bousculer tout le monde. L'alto qui est formidablement belle, ces quatre voix, c'est que quatre voix d'ailleurs, en termes de solistes, sont absolument divines et sublimes.
Ça tombe bien,
ça tombe bien vu le titre.
Et puis on approche des fêtes et on est dans la période de l'Avent et c'est la tradition de donner, quand on doit le donner, le Messie à cette période. Ce qui est assez paradoxal,
oui.
Puisque normalement elle a été écrite pour Pâques. D'ailleurs la première fois qu'elle a été jouée en 1742, c'était
pour la fête de Pâques,
dans le temple de Bar à Dublin. Et donc du coup on a l'impression que c'est une œuvre de saison, mais c'est paradoxal.
C'est paradoxal tout à fait, puisque nous déjà, on regardait à Lyon le 8 décembre,
voilà.
On fête la Vierge Marie et en fait la naissance de Jésus bientôt, et donc c'est quand même là que ça commence l'histoire.
Oui, c'est la première partie.
C'est la première partie
avec les bergers et à Nazareth.
Voilà. Alors scéniquement, Deborah a divisé le plateau en trois, ce qui est très beau à voir. Il y a beaucoup d'utilisation d'images qui permet de se laisser pénétrer aussi par les images sacrées qui ont été peintes ou sculptées ou gravé dans le bois au cours des siècles passés,
ou
des projections qui sont faites sur des écrans. Et en même temps, sur le plateau, on a trois zones, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'appartement de Marie, qui est un appartement comme aujourd'hui on pourrait trouver un appartement avec une télévision, un lit, des bancs, de quoi s'asseoir et puis de pouvoir boire un cocktail, par exemple.
La
Marie habite là, voilà. C'est une Marie, madame, tout le monde. Et puis au milieu, il y a l'église qui se construit. Et de l'autre côté de la Seine, il y a l'hôpital où va naître Jésus. Et tout ça est en même temps conjugué dans les trois espaces, en même temps par les danseurs, par les chanteurs, les choristes. Et c'est assez intéressant.
C'est ça, d'ailleurs, Deborah Warner, elle a ces mots à propos justement de Marie. Elle dit une jeune mère accouche d'un bébé. Y a-t-il quelque chose de plus universel et de plus joyeux que cela? On voit donc des choses ordinaires de la vie, l'amour, la naissance, la mort, avec en sus cet élément extraordinaire quand même, la résurrection à la fin. C'est ça le point de vue de Deborah Warner sur le Messie. Certes, c'est une histoire de Dieu, mais à taille humaine.
À taille humaine, tout à fait. Et elle y tient beaucoup. elle y tient vraiment beaucoup. Il y a eu d'ailleurs une petite discussion à propos des rôles, on change de rôle, qui est l'enfant qui fera l'enfant Jésus, etc. Et elle a dit, mais pourquoi vous mettez l'étiquette enfant Jésus? C'est un enfant, il se trouve qu'il sera peut-être Jésus, mais c'est d'abord un enfant, c'est un être humain, comme tous les autres. Mais à un moment, il est Jésus.
C'est ça. Voilà. C'est, on met l'accent sur le côté universel,
universel
de cette représentation.
Oui,
et d'ailleurs,
la force de l'amour, la force du divin.
Vous parliez de ces écrans tout à l'heure, qui font partie prenante du décor. Ils participent à ça parce qu'on creuse l'espace, on ouvre l'espace et on donne d'autres dimensions. Vous parliez de tableaux, par exemple, de primitifs italiens qui vont être projetés. Mais il y a aussi des toits.
Adam et Ève, il y a.
Il y a aussi des toits d'une mégalopole moderne qui
sont
projetés.
Tout à fait, pour montrer qu'on est quand même dans un monde d'humains et que l'humain est rempli la planète et que c'est d'abord ça qui compte, qui est le plus important.
Alors, le décor, ça fait partie de votre travail, en grande partie.
De le faire manipuler.
Voilà, de le faire manipuler. Oui. Parce que si la direction musicale jusqu'au 14 décembre sera assurée par un chef d'orchestre, Laurence Cummings, on peut dire qu'il y a un autre chef d'orchestre dans cette histoire pour diriger cette histoire de Dieu à hauteur d'homme, pas sur scène, dans l'ombre, dans les coulisses, c'est vous.
Oui, disons que c'est nous, la régie de scène, qui faisons... On nous compare à des sortes de pilotes de bateaux, de grands navires qui est le spectacle. D'un côté, il y a effectivement le chef d'orchestre qui dirige tout ce qui est musical, et nous, on dirige tout ce qui est technique, mouvement, entrée, sortie des artistes, des techniciens, que ce soit du décor, donc de la machinerie, de la lumière, de la vidéo en plus, du son, des artifices, puisqu'à la fin, ça finit sur un joli... tomber, lâcher de comment on peut dire, de glitter, on dirait en anglais, de choses qui brillent. Voilà, c'est la touche finale sur l'Alléluia à la fin. Ouais. C'est nous qui pilotons tout ça. C'est-à-dire que sans nous, sans la régie de scène, il n'y a pas de spectacle. C'est pas possible. Ça devient un concert. Alors, et encore, même là, on a besoin de nous.
C'est justement l'occasion de faire un point sur ce métier qui est assez mal connu, comme la plupart des métiers de l'ombre dans le métier des spectacles, il faut bien le dire. Celui donc de régisseur de scène.
Voilà.
Et on va voir que vous êtes important du début à la fin du spectacle.
Absolument.
Et ça commence avant le spectacle.
Oui.
Parce que vous avez la charge d'assister la metteuse en scène, donc là Deborah.
Oui.
Et notamment même avant, dans la construction du spectacle, vous réalisez ce qu'on appelle un cahier de régie.
Oui, alors c'est un conducteur, c'est notre conducteur, il y a le conducteur du chef d'orchestre, c'est sa partition, il y a toutes ces petites notes à lui personnelles sur la façon de diriger chaque instrument. Bien, nous, on a une autre partition qui est une piano chant sur laquelle on va noter toutes les volontés, les désirs et les décisions qui ont été prises en termes de lumière, ce qu'on appelle un effet lumière, et on va toper, c'est-à-dire donner l'ordre par le mot top à l'électricien qui est en cabine d'envoyer cet effet. Donc on donne les tops pour la lumière, pour les images, donc la vidéo, c'est un autre canal, pour le son, quand il y a des micros à ouvrir, à fermer, et aussi pour la machinerie, et aussi pour les accessoires, et aussi pour les entrées et les sorties des artistes, des techniciens, la préparation du spectacle avant, la mise en place du décor, de tout ça. Donc on est une sorte de pilote topper
La bonne
sur le
spectacle.
Plateau. Voilà, tout à fait. Dire. Une fois qu'on est parti sur le début du spectacle, d'ailleurs on le pilote déjà avant, l'entrée du public, la préparation des maquillages, des costumes... Ça a commencé déjà depuis une heure, le matériel en scène. Nous vérifions tout et nous organisons tout. On est dans cette sorte de console sur la scène, en coulisses, qu'on appelle le poste de commandement, avec lequel on communique. C'est une sorte de pupitre, avec des tas de boutons et de casques. Et on peut communiquer avec tout le monde, le public, tout le monde dans le bâtiment côté artistique et technique, et puis tous ceux à qui on donne des ordres pour faire fonctionner le spectacle.
Alors magiquement. Je disais, avant le spectacle, vous avez aussi un rôle dans la création. Vous êtes le bras droit, on va dire,
du metteur en scène. Oui, voilà. On est entre elle et son assistant, et puis les chorégraphes, etc. Nous sommes les garants de tout ce qu'elle aura voulu décider, et on va l'aider à le réaliser, en
quelque
sorte.
Vous le faites.
Voilà, on le note, on fait en sorte que tout fonctionne comme elle le voudra.
Et alors pour le Messie, comment s'est passée cette collaboration avec Deborah Warner?
Alors c'était un peu différent dans la mesure où elle a déjà créé le Messie, ouais, cette production-là à Londres, mais ouais, pour elle c'était pas vraiment une reprise normale, c'est-à-dire on faisait comme ça, ben on va refaire pareil. Non, elle a tout refait la première partie et elle l'a fait aussi en fonction des artistes qui étaient là, des
chœurs. C'était une réadaptation.
C'était une réadaptation, une reprise recréée, si on peut dire. Donc du coup, on l'a aidée, effectivement, nous, les régisseurs de scène, on a fait en sorte qu'elle puisse avoir sous la main et à disposition autant de facilité que possible pour pouvoir avoir les artistes, les techniciens, les accessoires, tout en ordre de marche pour que ça fonctionne. Oui.
Alors en tant que régisseur de scène, vous êtes aussi chargé de tout ce qu'il y a pendant, c'est-à-dire l'organisation de la tournée et la logistique.
Oui.
Donc c'est vous qui l'avez accueilli, c'est vous qui avez accueilli cette
Absolument. Troupe. Absolument, on l'a accueilli, on a accueilli les chanteurs, on leur donne toutes sortes d'informations jusqu'aux médecins. Le jour de la première, il y a eu 3 accidents, on leur a trouvé des médecins pour les soigner, pour les blessés, les ostéopathes, etc.
C'est quel genre d'accident?
Alors, il y a un danseur qui a eu 3 vertèbres déplacées pendant le spectacle et qui a eu un muscle un peu torsionné. On l'a envoyé chez... Il voulait voir un ostéopathe et il a été... Ça allait mieux. J'ai pris des nouvelles après. Il y a l'alto qui est tombé. Elle avait mal au genou. Donc, pareil, elle voulait voir un kiné. Il y a une figurante qui s'est tordue la cheville. Pareil, on a toutes sortes de casquettes à ce niveau-là. J'ai tout un dossier de gens très efficaces qui travaillent pour nous en urgence, parce que l'urgence, c'est de pouvoir jouer ce soir.
Et, oui, et on ne se doute pas de tout ce qui peut se passer justement
en coulisses,
ces imprévus.
Oui, il y a beaucoup d'imprévus. Et par exemple, le jour de la première, on en a eu pas mal, que le public ne voyait pas, ne savait pas, mais nous avons eu des pannes... ce que nous appelons l'intercom, par exemple, ce qui nous permet de communiquer entre tous les techniciens et nous.
Ah oui.
Donc, on ne pouvait plus...
Donc là, pour toper...
Pendant quelques secondes, on n'a pas pu toper, oui, en effet. Donc, heureusement qu'il y avait d'autres relais. Et en urgence, on a pu faire pallier à ça, quoi, faire une réparation d'urgence. On a dû changer le bloc électrique. Enfin, il y a eu des petites pannes comme ça. On pourrait dire des micro-pannes, mais qui nous ont pas mal stressés, qui ont fait courir beaucoup de monde, mais que le public n'a pas vu du tout.
Et oui, parce que show must go on.
Absolument, le show must go on.
Alors, on le dit et on le voit, vous êtes le maître des coulisses.
Oui.
Et quelque chose qui m'a frappé en me renseignant un petit peu sur votre métier, c'est que vous avez aussi en charge, dans ce monde de musique, de faire régner le silence.
Oui, ça c'est terrible. Le mot silence qui est écrit partout et qu'on essaye de faire respecter, parce que malgré tout, les humains sont des humains et dès qu'ils sont en coulisses, ils oublient que sur scène, juste à côté d'eux, il y a un spectacle en déroulement et ça peut être des gens qui le respectent. Normalement, si on leur parle individuellement, le phénomène de groupe fait qu'effectivement, il y a du bruit par-ci par-là. Ça peut être du bavardage, mais ça peut être simplement un objet qui tombe ou quelqu'un qui marche trop vite sur un bout de bois. Ou ce silence doit être absolument respecté, en effet.
Silence d'or, c'est la règle.
C'est la règle sur scène, oui.
Pour justement aider les acteurs et les chanteurs qui sont sur scène et
à s'exprimer.
Les aider aussi,
oui,
au moment où ils doivent rentrer, vous,
oui,
les guidez, vous les
assistez. On les top, absolument, on les top eux aussi. C'est-à-dire qu'on est là pour, premièrement, vérifier, les appeler pour qu'ils soient prêts au bon moment, avec ce qu'il faut dans leurs mains s'ils ont des accessoires, les costumes corrects, s'il y a besoin d'un raccord, une réparation de leur maquillage ou de leur perruque, peut-être quelque chose à retoucher, mais aussi de leur faire entrer en scène, c'est-à-dire de leur dire top à eux aussi, vas-y. C'est à toi.
Et parfois aussi de les aider pour leur texte.
Leur texte, ça peut arriver. Alors, dans notre partition, ce qui est une partition unique sur une production, c'est que notre conducteur à nous a toutes les informations de mise en scène, de les entrées, ce qu'ils font, à tel moment tu t'assieds. Il y a tout écrit dedans. Autant les effets que nous devons toper, comme je disais tout à l'heure, lumière, etc., mais aussi ce que font les artistes.
Finalement,
ce que font les techniciens à ce moment-là.
C'est vous qui avez la conscience la plus grande du spectacle.
Oui, c'est dans notre partition qu'il y a tout.
Ouais.
Tout est noté et on peut la mémoire de ce qu'est ce spectacle.
Alors, on parle du Messie depuis tout à l'heure. C'est évidemment pas votre premier spectacle.
Non.
Vous en êtes à combien de productions? Je vois derrière vous beaucoup de documentation.
Je ne les ai pas comptées, mais ça fait 20 années de régie, donc il y en a pas mal. Des très compliqués ou plus simples. dans les genres Porgy and Bess, qui était extrêmement compliqué parce qu'il y avait aussi des écrans, des images, mais aussi beaucoup de mouvements de cintres, c'est-à-dire des décors, des toiles, des tulles, etc., qui descendent, qui montent en même temps que les humains, donc les choristes, les artistes bougent, avec toujours le risque d'accident, le risque effectivement de télescopage, mais aussi en termes de temps et de résultats, faire en sorte que le public ait un spectacle absolument magique. Et c'est pas toujours simple. Entendre par là jusqu'à 400 effets lumière qu'on top, des centaines d'effets, quand c'est pour Porgy and Bess par exemple, des centaines d'effets en correspondance en vidéo, donc 400 lumière donne à voir 200 à 300 en vidéo, plus tout ce qui est machinerie, qui est à peu près une centaine, tout ça pendant 3 heures.
Il faut évidemment pas en louper un.
Pas en louper un, et rester concentré, et s'il y avait un pépin. Si on me dit au casque « ça part pas », ben, il faut qu'on puisse pallier à ça et on continue parce que le show must go on et que personne ne va arrêter le chef d'orchestre pour dire « excusez-nous, on a un petit souci ».
Comment vient cette idée de faire ce métier? Parce qu'on le voit, ce n'est pas un métier très connu. Pourtant, c'est un métier certainement passionnant, exigeant,
c'est passionnant, oui.
Très fatigant. Ouais. Mais comment vient l'idée de faire ce métier?
Alors, l'idée ne m'est pas venue personnellement à moi. J'y ai pensé, j'ai des collègues qui ont fait ce métier aussi. J'étais personnellement un artiste d'abord. Ouais. J'étais danseur, donc je connais la scène.
Par la poussière,
je dirais par la danse en l'ayant pratiqué. Donc je comprends et je sais très bien ce que vit un artiste.
Quand
ce qui aide beaucoup
scène,
quand il rentre sur scène. Voilà, exactement. Mais c'est monsieur Jean-Pierre Brossman, l'ancien directeur de l'Opéra de Lyon, qui m'avait appelé dans son bureau. Il m'a demandé si j'étais intéressé de faire ce métier. Et j'avais dit provisoirement, pourquoi pas, je veux bien essayer. Voilà, c'est comme ça que je suis passé de la scène sous les projecteurs à la scène en coulisses.
Alors vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez
énormément
dû apprendre beaucoup, vous avez appris sur le tas.
Sur le tas, oui.
Et on le disait avant, pendant, après.
Et après, il
finalement,
faut
c'est pas
archiver.
Métier, c'est votre vie.
C'est notre vie, absolument. Nous, les régisseurs de scène, par rapport aux techniciens, par exemple, si on réfléchissait en termes d'heures et d'horaires et de façon de travailler, on fait partie de cette catégorie bizarre où on ne devrait pas pouvoir compter les heures parce qu'on ne peut pas. Quand tout le monde s'arrête, quand les techniciens ont fait leurs 12 heures de travail, ben nous, entre-temps, on a des discussions, des mises au point à faire avec le metteur en scène, comme on disait tout à l'heure, l'éclairagiste pour tout ce qui est lumière, le vidéaste, le costumier, enfin chaque corps de métier, chaque créateur. Et puis l'organisation à l'envers, puisqu'on est au centre du sablier, à communiquer tant vers le haut que vers le bas. Faire savoir que toute cette organisation a changé, ben, faut la mettre en place, faut la faire connaître, il faut saisir des tas de conduites et de planning et d'autres choses, les organiser, parce que nous sommes la clé de tout le fonctionnement, sachant que dans chaque corps de métier, on a un règlement différent aussi, des façons de travailler différentes, des horaires différentes. Le chœur a une pause de 2 heures alors que les autres en ont d'une heure et demie, etc. Donc il faut faire correspondre tout pour que justement le metteur en scène puisse avoir des répétitions qui fonctionnent normalement.
Les 35 heures, vous ne connaissez pas?
Bah, sur le papier, oui.
Mais en vrai, pas vraiment.
En vrai, pas vraiment. Non. Disons qu'on fait partie de cette catégorie. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui pourrait... Comment pourrait-on dire attendez, j'ai fait mes heures, au revoir, vous n'aurez pas c'est le deuxième acte aujourd'hui. Ou qu'une partie. Non, mais c'est bien, mais c'est un métier à responsabilité. Après, c'est chacun avec sa conscience.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, pour finir, on va finir sur un peu d'anecdotique, après avoir touché au sac tout à l'heure en présentant le Messie, une anecdote, le pire problème qui a pu vous arriver?
Au pire, il y en a eu pas mal, mais je peux peut-être en donner trois peut-être. Louis Langrée, on était en train de faire la Bohème, c'était l'année où il y avait toutes ces orages et ces tempêtes incroyables, l'hiver
99,
on était là avec des arbres qui tombent sur les trains, dont le sien. Il rentrait de Besançon, c'était un dimanche après-midi, et il saute dans un taxi. Heureusement, en faisant le train, il ramasse une violoniste aussi. Il arrive à peine à temps, 20 minutes avant le lever de rideau pour commencer. Et comble de comble, ce jour-là, faut savoir que quand il rentre dans la fosse au moment de commencer le spectacle, on a une bascule de lumière, la salle passe au noir, lui, il s'éclaire plus, il a des projecteurs pour qu'on le voit. Et à ce moment-là, un des projecteurs s'est éteint, a grillé. Et moi, j'ai un petit écran pour le voir. Et on a un petit téléphone entre lui et moi qui est une sorte de téléphone rouge.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un des deux décroche, ça clignote rouge de l'autre côté.
Comme à la Maison
et
Blanche.
Voilà. Et au lieu de voilà, exactement. Et au lieu de commencer, il se retourne. Je vois qu'il regarde vers le haut. J'imagine que ce projecteur est grillé. Donc, j'envoie tout de suite quelqu'un réparer, ce qui veut dire monter 6 étages à pied dans un escalier en colimaçon. Ouais. C'est toucher un projecteur qui est bouillant pour changer l'ampoule.
Ouais.
Pendant ce temps, lui, il est dans le silence et il s'accroupit, il disparaît de l'écran. Donc, je prends le téléphone, je parle avec lui, je dis, mais tu peux commencer. Il me dit, non. Là, on ne me voit pas. Je dis, mais si, t'inquiète pas, on va te voir. Il y a un électricien qui court dans l'escalier. Non. Tant que ce n'est pas allumé, je ne pars pas. Mais dès que ça s'allume, je pars. Donc, l'électricien change l'ampoule, le projecteur s'allume, il saute comme sur un ressort et il démarre, qui ne m'a même pas donné à moi le temps de démarrer. La seconde d'après, on continue un petit peu, puis j'ai toujours cette caméra sur lui en gros plan, parce qu'il faut savoir que souvent les chanteurs ont besoin de voir le chef d'orchestre en direct, et comme ils ne peuvent pas toujours le voir en direct, selon la mise en scène, on a des petits moniteurs pour le dupliquer un peu partout. Et bien moi aussi, et je vois son visage qui s'assombrit de l'autre côté, le projecteur de l'autre côté avait grillé, voilà.
Donc rebelote,
mais de l'autre côté, côté jardin. Pareil, un électricien qui monte, évidemment, à l'entracte, il était furieux.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est une petite anecdote. Une autre, c'est que souvent, de plus en plus souvent, on utilise le rideau de fer. Le rideau de fer est un élément de sécurité, un coupe-feu,
ouais,
comme élément de décor. Souvent, ça plaît au metteur en scène. Et il y avait une production, Albert Herring, où on devait descendre ce rideau de fer qui nous permettait de changer un décor derrière, sans que le public entende le bruit que ça faisait.
Ouais.
Pendant ce temps, le chanteur, le ténor, était devant, sur une petite passerelle au-dessus de la fosse d'orchestre, chantait. Et normalement, à la fin de son air, je donnais le top et le rideau de fer se levait. Ce jour-là, l'électricien me dit « Merde, ça part pas !» Évidemment, on a un grand silence. Je vois le chef d'orchestre devenir blanc, se demander ce qui se passe. Je prends le téléphone. Pendant ce temps, il faut aller très vite dans notre tête. J'envoie le gars de la sécurité, puisque c'est un élément de sécurité, de l'autre côté pour voir ce qui se passe. J'ai le directeur qui me tombe dessus. Que se passe-t-il? Il faut l'informer. Il voulait informer le public. Je rassure le chef d'orchestre par téléphone, avec notre petit téléphone rouge, et le chanteur qui était bloqué devant, qui essaie de sortir. En réalité, c'était une histoire de temporisation et il fallait tenir la clé un peu plus, etc. Le temps que tout ça se déclenche, le rideau de fer est parti, c'est levé. Voilà. Mais il y a eu un moment de peur et de moment où le chef d'orchestre demandait ce qui allait se passer.
C'est sûr.
Voilà.
Et il faut réagir vite.
Et il faut réagir vite. Et une troisième anecdote, alors, c'était un jour de la première du Roi Malgré Lui. Il y avait des fusibles qui ont sauté, qui ont disjoncté, qui ont grillé, quoi. Et l'étoile ne descendait pas. Et ça, le Saint-Tri me disait, le prochain effet, la toile numéro 3, elle ne descendra pas, ça a grillé. Le temps qu'on aille dans l'armoire électrique changer, ce n'était pas possible. Alors, il faut jongler dans sa tête, se dire, effectivement, pendant que je pilote, je suis ma partition, dans les prochains effets, il va y avoir tel effet qui correspond à une toile qu'on n'éclairera pas puisqu'elle n'est pas là. Donc on va essayer de sauter l'effet, etc. Il faut s'adapter, voilà. Quand on arrive au bout du chemin et que c'est les applaudissements des saluts, on respire fort. Oui.
Merci beaucoup Patrick Azopardi d'avoir partagé toutes ces anecdotes avec nos auditeurs au micro d'En Spectateur. Pour donc l'oratorio Le Messie d'Handel, que vous pouvez aller voir jusqu'au 14 décembre, chers auditeurs. Merci de nous avoir emmenés donc de l'autre côté du rideau,
oui,
en coulisses.
Avec plaisir.
Merci.
Au revoir.